Bonsoir mes frères et sœurs, quel bonheur d'être dans la maison du Seigneur, quel bonheur. Alors ce soir je vais partager avec vous un sujet qui je pense a besoin d'être partagé dans les églises. Vous savez que Dieu connaît le passé, le présent et l'avenir. Dieu a des projets pour nous, vous le savez? Ils sont comment les projets de Dieu pour nous? Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Dieu a des projets de paix, des projets de paix afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Dieu, il a des projets. Ces projets, nous ne les connaissons pas. Ces projets ne correspondent pas forcément aux nôtres. La Bible dit dans le Proverbe 16, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel et tes projets réussiront. Psaume 31:11, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Dieu a des projets. Vous êtes certainement loin de vous imaginer combien les projets que Dieu a pour vous sont de bons projets, de très bons projets. Alors je ne sais pas, par exemple, l'autre jour nous avons partagé ce verset, que toute chose concourt au bien de ce qu'aime Dieu. Vous vous rappelez qu'on a partagé ce verset, on l'a inclus dans une prédication. Est-ce que vraiment les gens ont compris ce verset? Je ne suis pas sûr que les gens l'ont compris. Alors, on va ce soir partager quelque chose de sérieux, parce que pourquoi Dieu a donné des pasteurs? D'après vous, pourquoi Dieu a mis des pasteurs dans l'église? Il faut m'aider, je veux que vous m'aidiez. Alors, pour le perfectionnement des saints et pour la connaissance du Fils de Dieu. Souvent, les chrétiens, vous voyez, s'imaginent que les pasteurs, c'est fait pour faire de l'évangélisation. Mais quand vous regardez Éphésiens chapitre 4, c'est clair, Dieu a donné des pasteurs pour le perfectionnement des saints, donc pour que les chrétiens fassent des progrès et pour la connaissance du Fils de Dieu. Alors, on va partir d'un verset qui m'a beaucoup interpellé dans Osée, au chapitre 2, au verset 16. Osée, c'est le premier des petits prophètes. Vous savez, il y a Ézéchiel, Daniel, Osée. C'est des prophètes qu'on a du mal à trouver parce qu'il n'y a pas beaucoup de chapitres. Mais je vous encourage à noter tous les textes que je vais vous donner parce qu'ils pourraient vous aider à comprendre certaines choses que Dieu permet dans votre vie. Car il y a des choses que Dieu permet et que nous ne comprenons pas parfois. Ça fait rétrograder les gens ou ça fait faire des progrès aux gens. Osée, chapitre 2, verset 16. Regardez ce que Dieu fais ce que tu es obligé de faire pour pouvoir parler à quelqu'un. C'est un des versets qui est très fort. Mais enfin, ça, vous allez voir avec les exemples que je vais vous donner combien c'est vrai. Osée chapitre 2, verset 16. Regardez ce que Dieu dit. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire où? Au désert. Et je parlerai à son cœur. Donc, on voit que Dieu est contraint de conduire ses enfants dans le désert, dans des épreuves. Pourquoi? Pour que Dieu puisse parler à son cœur. Et je ne sais pas si... Parce que si je vous dis, est-ce que vous voulez que Dieu vous parle? Vous allez tous me dire, mais pourquoi on est là? Mais franchement, on va bien voir une chose. C'est que Dieu ne peut pas nous parler en vérité comme ça. Je vous avais raconté l'histoire, il y a quelque temps de ça, d'un fermier qui voulait vendre un âne. Vous vous rappelez? Est-ce que vous vous en rappelez? Vous vous rappelez ce fermier, il voulait vendre un âne, et bien sûr, ce fermier vantait les capacités de son âne pour pouvoir le vendre. Et cet âne, effectivement, avait des capacités. Et ce fermier disait, voilà, moi, mon âne, vous pouvez l'acheter, parce que c'est un âne intelligent. Quand je lui dis quelque chose, il le fait. Si je lui dis de s'asseoir, assieds-toi, il s'assoit. Si je lui dis couche-toi, il se couche, etc. Alors, il y a des gens qui étaient intéressés, alors il y en a un qui arrive. Ah bon, c'est vrai ce que vous dites? Ben oui, essayez. Alors, il s'approche de l'âne, et il dit à l'âne, assieds-toi. Et l'âne, il ne s'assoit pas. Ah, voyez, vous m'avez menti, c'est pas vrai, votre âne, il n'obéit pas. Alors le fermier il s'en va, il va chercher un bâton, il revient, et puis il tape sur la tête de l'âne, paf, et il dit assis-toi. Et l'âne il s'assoit. Alors le fermier regarde le futur acquéreur, il lui dit, il obéit, mais il faut d'abord attirer son attention. Alors moi cette histoire, j'ai trouvé qu'elle était excellente. Parce que c'est exactement le thème de ma prédication de ce soir. Oui, oui, on obéit, mais hélas, il faut souvent que Dieu attire notre attention. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en vérité, on est dans un système compliqué, nous sommes occupés, le travail, la routine, les habitudes, même le service spirituel. Le service spirituel dans une église peut être une forme de contrainte, d'habitude. Vous savez, quand on fait quelque chose et quand ça commence à devenir une lourdeur, c'est pas bon signe. Ce que l'on fait pour Dieu, ça doit être tout le temps une occasion de nous épanouir. Mais nous avons un emploi du temps qui peut être mal géré, encombré, des occupations que nous ne devrions pas avoir, fait un mélange de tout un tas de choses. Et le résultat, c'est que nous ne connaissons pas Dieu comme nous devrions le connaître. Nous sommes en train de réfléchir. Ça vous arrive de réfléchir ? Dès qu'on se réveille, on réfléchit. Bon. Mais est-ce que la réflexion nous approche de Dieu ? Oui, ça peut, c'est vrai. Regardez avec moi dans le psaume 73. C'est quand même un psaume qui nous prouve que la réflexion peut nous éloigner de Dieu. C'est pas n'importe qui en plus. C'est Asaph, un homme de Dieu, qui se trouve dans une épreuve terrible, il ne comprend pas, les gens qui ne sont pas chrétiens prospèrent, les gens qui sont méchants sont dans l'abondance et lui n'est pas béni comme il l'estime. Donc il commence à s'aigrir. Il ne comprend pas ce qui se passe parce que les païens sont plus bénis que les chrétiens. Je résume. Hein. Alors dans le psaume 73, au verset 16, qu'est-ce qu'il fait ? Bien sûr, il réfléchit. Et qu'est-ce qui se passe quand il réfléchit ? Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, bien sûr parce qu'on réfléchit toujours pour avoir un peu d'éclairage, la difficulté fut grande à mes yeux. Le problème, vous voyez, c'est que si on ne fait que réfléchir, les problèmes peuvent s'aggraver. Et il y a des chrétiens qui passent toute leur vie, pas un an ou deux, pas pendant une épreuve ou deux, ils passent toute leur vie à se poser des questions. Est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen ? Est-ce que Dieu n'aurait pas pu faire autrement ? Moi, je connais des chrétiens, ils arrivent au soir de leur vie, ils sont tout le temps dans l'interrogation. Et pourquoi j'ai vécu ça ? Je suis persuadé que Dieu avait un autre moyen de me faire arriver, etc., etc. Et la réponse, c'est que non, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Réfléchissons un instant. Dieu veut vous parler, Dieu veut nous parler. Soyons honnêtes, on est devant Dieu, on est là pour apprendre. Mon ministère, normalement, devrait vous aider à vous perfectionner. Mon ministère devrait vous aider à mieux connaître le Seigneur Jésus si ce que l'on partage est la volonté de Dieu. Réfléchissons. Combien de prédications avons-nous écouté où Dieu nous a vraiment montré quelque chose de précis ? Nous avions demandé à Dieu qu'il nous parle, nous sommes venus à l'église, nous avons entendu un sermon qui vraiment correspondait à notre besoin, des choses importantes que Dieu voulait que nous fassions. Est-ce que Dieu vous a déjà parlé pendant une réunion ? Vous êtes d'accord ? Dieu nous a parlé, mais aussitôt arrivé à la maison, soyons honnêtes, hein, Dieu nous avait parlé et nous n'étions pas arrivés à la maison que déjà nous avions oublié. Est-ce que c'est arrivé qu'à moi ou est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi ? Ça nous est tous arrivé. Combien de fois nous avons entendu un témoignage où le Seigneur nous a interpellés, Dieu permettait qu'un frère, une sœur donne un témoignage par rapport à une expérience qu'il avait faite. Vous n'avez jamais entendu des témoignages qui vous ont vraiment touché ? Des témoignages qui vous ont interpellé, etc. Mais c'est ce que j'avais besoin d'entendre. Il faut que je fasse la même chose. Il faut que je vive la même chose. Et là aussi, nous sommes arrivés à la maison où nous étions dans la rue et déjà le diable avait enlevé ce que Dieu avait semé au travers d'un témoignage. Combien de fois même avons-nous été touchés par un cantique ? Oui ou non ? Il y a des cantiques quand même qui nous interpellent. Il y a des cantiques qui sont profond, dimanche matin, on a chanté un cantique, franchement, moi qui m'a beaucoup interpellé. Hein, est-ce que ça a eu un effet dans ma vie ? Ça m'a donné une conviction, mais est-ce que même une conviction suffit à nous changer ? Voilà, c'est une question qu'on peut quand même poser. Vous me suivez ? C'est pas parce qu'on a une conviction profonde que ça va nous changer. Croyez-moi. Un cantique, un témoignage, des moyens de grâce, il y en a plein des moyens de grâce, même par quelqu'un, etc., etc. Le résultat, c'est qu'il n'y a pas eu ce qu'il fallait. Alors, je pensais, par exemple, quand je me suis converti, qu'une conviction sincère suffisait à changer quelqu'un. Moi, je le pensais. Et puis, quelques mois dans le ministère pastoral, j'ai vite vu que ce n'est pas parce que quelqu'un est convaincu de péché qu'il va se convertir, par exemple. Moi, je me souviens des premières personnes pour qui j'ai prié. Elle avait le cancer, je me rappelle. Elle a été guérie. Elle pleurait. Elle a été guérie. Et moi, j'étais sûr qu'elle se convertissait. Et 3 mois après, je l'ai croisée dans la rue. Je dis, mais madame, vous avez... comment allez-vous? Ah, mais j'ai été guérie. Et vous ne voulez pas venir à l'église? Ah, mais non, je ne veux surtout pas de Jésus, elle m'a dit. Mais vous avez été guérie? Ah oui, je sais que Jésus m'a guérie. Mais je ne veux pas de Jésus-Christ. Ça m'a montré que même certaines convictions ne suffisent pas à changer quelqu'un. Il faut quelque chose de plus. Quand tout va bien, regardez les païens. Prenons l'exemple des païens. Les pécheurs qui ne connaissent pas Jésus-Christ, quand tout va bien, que tout va très bien, allez leur faire comprendre qu'ils ont besoin d'un sauveur. Ça va être très très difficile. Mais ce même païen, tout d'un coup, se trouve confronté à une maladie grave. Le docteur lui dit qu'il va peut-être mourir. Vous lui parlez de Jésus, il ne va pas du tout avoir la même réaction. Et il peut se mettre à chercher Dieu. Et je suis persuadé que dans le ciel, il doit y avoir des milliers, sinon des millions de gens qui sont sauvés grâce à la maladie. J'en suis convaincu. C'est rare les gens qui se convertissent joyeusement pour suivre le Seigneur parce qu'il est Dieu. Alors il y a des efforts à faire, on le voit. Paul dit « je traite durement mon corps ». Jésus va dire « ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux ». Mais nous, ne parlons pas des païens qui ont besoin d'épreuves pour se convertir. Parlons de nous. Nous, quand tout va bien, ça arrive que des moments où tout va bien. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des moments où, dans notre vie, les choses vont bien, ça se passe bien, et on a tendance à penser que parce que tout va bien, eh bien, on est spirituel. Et qu'on a atteint le niveau, etc. On appelle ça l'autosuffisance ou la suffisance. Il nous arrive de prier, mais de prier par habitude. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prier par habitude? On prie, bien sûr, moi, le premier. Et nous pouvons confondre, par exemple, le bien-être que Dieu peut nous accorder. Et c'est bien, et quand même... La Bible dit que si nous étions attentifs, notre bien-être serait comme un fleuve, etc. Mais nous pouvons confondre parfois le bien que Dieu nous accorde et la spiritualité. Donc, une chose est certaine, il va falloir que Dieu fasse certaines choses pour nous parler. Dieu peut nous conduire même dans un désert pour nous parler. L'adversité, c'est ça. C'est que l'adversité peut pousser des gens qui sont orgueilleux, dur, entêté, méchant, tout d'un coup ça peut les pousser à se jeter à genoux. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous avez envie de faire des progrès? Qui a envie de faire des progrès? Vous allez certainement écouter. Donc, l'adversité nous change, ça nous fait... Ça, attention, on peut, ça je n'en parlerai pas, mais on peut court-circuiter l'adversité. C'est-à-dire qu'on peut abandonner Dieu... Dès qu'on est confronté à de l'adversité, tous les fils prodigues sont en fin de compte des gens qui n'ont pas accepté une épreuve, presque tous. Je résume, mais que vous le vouliez ou non, des fois on dit, mais pourquoi telle personne elle a abandonné le Seigneur? Pourquoi telle personne aussi? Souvent c'est des gens qui ont, comme un coup-circuit, vous savez, électrique, ils ont coup-circuité le plan de Dieu. Alors nous allons partir de Saul de Tarse. Vous connaissez Saul de Tarse? Comment il était cet homme avant sa conversion? Comment la Bible le décrit? Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop, on va quand même y aller. C'est important mes frères et sœurs, parce que là ce n'est pas pour Saul de Tarse qu'on étudie, c'est pour nous. Dans Actes au chapitre 9, il nous est parlé de cet homme. Comment la Bible le décrit? On pourrait prendre 2 textes d'ailleurs, je crois que c'est bien. Tout ça, ça a été écrit pour notre instruction, pour que nous apprenions certaines choses afin de faire des progrès. Actes chapitre 9. C'est le Saint-Esprit, n'oubliez pas, qui a inspiré Luc pour inscrire ce livre. Actes chapitre 9, verset 1er. Cependant, Saul, regardez comment le Saint-Esprit nous le décrit, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Gardez la page, venez avec moi dans 1 Timothée, c'est lui qui parle. C'est lui-même qui parle, regardez comment... Il parle de lui avant qu'il ne rencontre le Seigneur Jésus. Regardez, 1 Timothée chapitre 1, verset 13. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, cet homme qui servait Dieu. 1 Timothée chapitre 1, verset 13. « Moi, qui était auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un persécuteur. Un blasphémateur, un homme violent, revenons à Actes, un homme qui respirait la menace et le meurtre contre l'Église. Avant sa conversion, cet homme, il était engagé. Il était engagé dans une cause, la destruction de l'Église. Est-ce que vous réalisez? Cet homme avait choisi, pour Dieu, il le faisait pour Dieu, c'est clair, détruire l'Église. Et pourtant, vous le comprenez bien, il avait dû entendre parler de Jésus-Christ quelquefois. Oui ou non? Est-ce qu'à cette époque, on entendait parler de Jésus? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il devait avoir entendu plusieurs fois que les disciples de Jésus avaient fait des miracles extraordinaires. Mais cela ne lui avait pas servi. Cela n'avait pas attiré son attention. Regardez dans Actes 7, où c'est qu'il est. Regardez quand même, vous savez, quand on a lapidé Étienne, comme par hasard, je le dis avec beaucoup de sérieux, comme par hasard, regardez le verset 58. Bon, il lapide Étienne hors de la ville, parce qu'il ne fallait pas le faire à l'intérieur. Ils traînèrent Étienne hors de la ville et le lapidèrent. Regardez ce que Dieu a permis. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Dieu, pourquoi c'est écrit au fait ça? Pourquoi c'est écrit que, quand ils ont lapidé Étienne, comme par hasard, ceux qui le lapidaient, c'était des faits de leurs vêtements, ils l'ont mis au pied de Saul. Pourquoi? Moi je crois que Dieu voulait lui parler. Vous ne croyez pas que Dieu voulait lui parler? C'est sûr. C'est écrit. Dieu voulait l'interpeller. Dieu commençait à lui parler. Mais ça n'a pas servi. Il a dû voir Étienne, puisqu'il était là. Il a dû voir Étienne, lorsqu'il était lapidé. Il nous a dit qu'Étienne, son visage rayonnait. Il a dû voir ces choses. La Bible dit que son visage rayonnait comme celui d'un ange. Mais ça n'a pas suffi. Il a fallu un peu plus. Au chapitre 9, on voit ce que Dieu va faire. Vous connaissez Actes chapitre 9 ? Saul était en route vers Damas, il se consacrait à son œuvre, je le répète, la destruction de l'Église. Il cherchait tous les gens qui étaient disciples du Seigneur pour les arrêter et les faire tuer. C'est quelque chose qu'il faisait avec beaucoup de sérieux. On le répète, c'est un homme qui respirait le meurtre. Vous savez, notre témoignage, je ne sais pas ce que vous respirez quand vous témoignez, quand vous parlez avec les gens, mais je pense que ça doit quand même nous interpeller. La façon dont on s'exprime, la façon dont on parle aux gens. Notre frère Jonathan dans les champs nous parlait du fait que si on est béni, eh bien on ne peut que bénir les autres. C'est imparable ça. Cet homme, il était rempli de haine et quand vous parliez avec lui, il respirait la menace, le meurtre, la persécution, la violence et le blasphème. Vous savez, quand on parle mal de Jésus, parce que ça prouve combien il avait reconnu Jésus comme étant Dieu. Parce qu'il respectait Dieu, la religion de ses pères. Mais quand on parle mal de Jésus, je peux vous dire, bon là, je diverge un peu, mais ça fait rien. Ça s'appelle du blasphème. C'est un autre sujet. Enfin, sur le chemin de Damas, Dieu l'arrête. Dieu l'a arrêté là. Dieu savait, il aurait pu l'arrêter le soir même dans sa chambre d'hôtel. Est-ce que Dieu aurait pu lui parler dans sa chambre? Vous savez, cet après-midi, je réfléchissais à toute cette prédication, bien sûr. Et je tiens, il aurait pu le faire tout seul, quand il était tout seul. Dieu l'a arrêté là, en plein midi, devant tous ses collègues, devant tous ses serviteurs. Lui, c'est ce grand homme, c'était quelqu'un, Saul de Tarse. Il l'arrête où il sait où il doit l'arrêter. Et j'aimerais que nous comprenions bien, mes frères et sœurs, que ces choses-là, elles soient écrites pour nous. Dieu sait comment nous parler. S'il doit le faire quand on est seul, s'il doit nous humilier devant des gens. Est-ce que Dieu peut nous humilier devant des gens? Est-ce que ça peut arriver? Ben oui, acceptons-le. Dieu, il sait, parce que de toute façon, parfois on aura besoin d'être interpellé devant des gens. Ça va tester notre humilité, etc. Dieu l'a arrêté là, en plein midi, sur le chemin de Damas. Il savait ce qu'il devait faire, il savait comment faire. Dieu, il sait comment faire avec vous. Il est dit qu'il l'a frappé d'une lumière aveuglante, qu'il l'a humilié devant tous ses compagnons. Qu'est-ce qu'il a dû penser lorsqu'il s'est retrouvé aveugle? Après tout, nous, on sait comment ça se termine. Mais il a pu penser qu'il allait être aveugle toute sa vie. Franchement, vous perdiez la vue, là, maintenant, vous la perdez. Vous ne savez pas si vous allez la retrouver. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ce grand homme tout d'un coup terrassé par terre devant tous ces gens qui l'accompagnaient. Ce que Dieu a permis. parce qu'il voulait lui parler. Personne d'autre pouvait lui parler. Tout le monde le craignait. D'ailleurs, Dieu n'a même pas envoyé un homme. Dieu s'en est occupé tout seul. Et ça devrait nous encourager par rapport aux gens qui nous entourent, qui sont difficiles. Peut-être que nous avons des enfants récalcitrants, méchants, qui ne veulent pas qu'on leur parle de Jésus. Mais vous ne croyez pas que Dieu est capable de s'en occuper ? Mais sérieusement, vous ne croyez pas que Dieu a le pouvoir de s'occuper de ces gens-là, même des gens qui sont les plus méchants, les plus mauvais, les plus misérables, les blasphémateurs. Nous, on est là, du coup, c'est impossible, le mec, il est dans un point non-retour. Vous croyez que Dieu peut arrêter un autre Saul de Tarse ? Mais on a déjà entendu que des persécuteurs se sont convertis. Mes frères et sœurs, il sait ce qu'il fait. Saul a commencé à réfléchir. Est-ce que ça valait la peine, en fait, que ce grand homme de Dieu, là, paf, tout d'un coup, en plein midi, soit allongé par terre, moitié aveugle. C'est bizarre, comme tout d'un coup, Saul était prêt à écouter le Seigneur. C'est bizarre, quand même. C'est quand même des choses qui ont été écrites pour nous, mes frères. Et quand Jésus va lui dire, « Pourquoi me persécutes-tu ?» Saul, pour lui, Jésus est mort. Pour lui, Jésus était mort. Et tout d'un coup, il se rend compte que le Seigneur est vivant, qu'il est ressuscité. Et quelques jours plus tard, qu'est-ce qu'il fait ? Regardez avec moi, acte 9, 20, c'est 20, oui. Ouais, quand même. Acte 9, verset 20, et aussitôt, qu'est-ce qu'il fasse ? Il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Vous pouvez dire Amen. Dieu savait ce qu'il devait faire. Alors, maintenant qu'on connaît cette histoire, je le sais, mais quand même, qu'est-ce que Dieu pourrait faire avec nous s'il avait toute notre attention ? Est-ce que vous comprenez ma question ? Est-ce que Dieu a toute notre attention ? C'est une question qu'on peut poser dans le cadre d'une église. Ce n'est pas une question piège, c'est une question très sérieuse. Est-ce que Dieu a toute notre attention ? Et qu'est-ce que Dieu pourrait faire avec chacun de nous s'il nous attirait vraiment ? De notre sincérité, ben il voit si on est sincère ou pas. Il voit si on est loyal ou pas. Il voit si on est vraiment obéissant ou pas. De suite, Saul de Tarse, effondré, aveugle, humilié devant tout le monde. Il l'a accepté. Il a accepté d'être humilié devant tout le monde. Et il a dit, que veux-tu que je fasse ? Dieu saura nous attirer. Il saura. Vous inquiétez pas. Ne vous contrariez pas. Ne soyez pas contrariés si une épreuve vous agace. Dites, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux m'apprendre ? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi ? Peut-être que tu veux m'apprendre une véritable obéissance, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens. Mais écoutez-moi, mon cœur est chagriné. Il y a des chrétiens qui ne sont que des chrétiens de nom. Ils n'obéissent jamais, ce sont des rebelles. Mais Dieu vous voit, Dieu il connaît votre vie, il sait ce qu'il peut faire avec vous. Quand les hommes regardaient Saul, les gens voyaient, quand les chrétiens, je pense qu'ils devaient prier pour lui. Il devait prier parce qu'on prie pour ceux qui nous persécutent. Mais je ne pense pas qu'il devait penser que Dieu pouvait l'utiliser de la façon dont il l'a utilisé. Quand Dieu te regarde, écoutez-moi mon frère, ma sœur, quand Dieu te regarde, toi tu vois ton passé, tu vois ton présent, et encore. Mais quand Dieu te regarde, il voit ton avenir. Et il sait ce que tu pourrais devenir. Ce que tu pourrais faire. Nous, on est là, on est bloqué avec le passé. Mais qu'est-ce que Dieu pourrait faire avec ta vie si tu lui obéissais entièrement ? Qu'est-ce que Dieu pourrait faire ? Les gens nous regardent. Est-ce que les gens nous regardent vivre ? Est-ce que les gens qui vous entourent savent que vous êtes chrétien ? Ou est-ce qu'ils ne le savent pas ? S'ils ne le savent pas, ça serait peut-être important que vous commenciez à témoigner quand même. À Albi, nous avions un frère qui faisait tout le temps des histoires pour l'évangélisation. Et un soir, il y a quelqu'un de son bureau qui est venu. Et ce quelqu'un s'est mis derrière lui. Ça faisait des années qu'ils travaillaient ensemble. Et le lendemain, ce gars lui a dit, ça fait des années qu'on travaille ensemble et tu ne m'as jamais parlé de Jésus. moi qui cherche la vérité depuis des années. Et le gars, il a dit, je te demande pardon, Raymond. J'ai honte de témoigner, je ne sais même pas. Il ne savait même pas qu'il était chrétien, le gars. Et je crois, mes frères et sœurs, quand même que nous devrions rendre un bon témoignage. Oui ou non? Ça, c'est autre chose. Mais il sait dans quel état, le Seigneur, il sait dans quel état. Imaginons, soyons simples. Dans 15 jours, je serai dans le métro à tel endroit, il y a quelqu'un, que Dieu va mettre quelqu'un à côté de moi qui pense au suicide. Est-ce que ça peut être conduit par Dieu, que je lui parle de Seigneur, que j'ai un évangile sur moi à lui donner? Dieu le sait, ça. Est-ce que vous ne croyez pas que ça vaut la peine de travailler notre spiritualité pour que l'on soit prêt pour des situations auxquelles Dieu voudrait que nous soyons confrontés? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Nous, on est là, on est recroquevillés, mais on ne se rend pas compte ce que Dieu voudrait que nous soyons. Comment Dieu pourrait faire de nous un serviteur? Peut-être que tu vas être une épouse de pasteur. Est-ce que Dieu le sait si tu vas être une épouse de pasteur? Un diacre, un enseignant, etc. Dieu le sait. Peut-être que vous serez responsable de l'école du dimanche et que Dieu va vous travailler. Dieu va vous attirer dans des situations où vous devrez vous occuper des enfants. Ah non, moi les enfants, jamais. Ne dites jamais ça. Ne dites jamais, je ne ferai pas ça, je n'irai jamais là. Je vous conseille d'être très prudent avec ça. En tous les cas, une chose est sûre, qu'est-ce qui se passerait si nous étions disponibles de suite? Est-ce que vous acceptez d'être terrassé afin de pouvoir dire au Seigneur, écoute, ce que tu veux que je fasse, je le fais. Tu es en train de m'amener, j'ai une situation conflictuelle, peut-être dans mon foyer, mais acceptez-le. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne? Vous savez, moi je pense qu'au regard de l'éternité, ça vaut la peine que Dieu attire notre attention. Amen. Et qu'il nous montre ce que nous avons à faire. Alors peut-être que l'exemple de Saül, ça ne vous interpelle pas trop, parce que vous dites, oui, mais Saül, bon, c'était un religieux, il ne connaissait pas Dieu, etc. Mais peut-être que si pendant quelques minutes, je vous parle de Jonas, ça sera peut-être plus facile à comprendre parce qu'on aura plus de facilité à s'identifier à Jonas qu'à Saul. Parce que Jonas était un chrétien, d'accord? Qui lui a délibérément choisi de ne pas obéir à Dieu. Paul ignorait la vérité, mais Jonas, lui, il la connaissait très bien. Alors on a plus de facilité, nous, à se comparer à Jonas qu'à Saül. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, nous savons en principe ce que Dieu attend de nous. Est-ce que vous le savez, ce que Dieu attend de vous, au fait? Peut-être qu'on traîne des pieds pour le faire. Est-ce que ça peut arriver que le Seigneur vous appelle à telle ou telle activité? Tiens, ça fait des mois que j'ai à cœur d'aller faire des visites, mais j'ai tout le temps une excuse pour ne pas la faire, etc., etc. Moi, je pense que nous ne manquons pas d'enseignement ou de renseignement. Quand nous lisons la parole, il me semble que le Seigneur nous montre certaines choses. Nous manquons souvent de volonté. Alors Dieu utilise l'adversité. Pourquoi? Mais pour nous faire comprendre les choses. Vous avez déjà rencontré de l'adversité? Dans quel domaine avez-vous rencontré de l'adversité? Allez, dites-moi-le, s'il vous plaît. Dans quel domaine? Vous n'avez pas rencontré d'adversité? Dans quel domaine vous avez rencontré de l'adversité? La santé? Le travail? L'église? Dans l'église, est-ce qu'on peut rencontrer de l'adversité? Oui. Dans tous les domaines, le Seigneur peut le permettre. Dieu a permis l'adversité dans la vie de Jonas pour le ramener à ce qu'il lui avait demandé. Vous avez remarqué la prière de Jonas? Où c'est qu'il prie? Il prie dans le ventre du poisson. Vous avez lu le livre de Jonas? Dans le ventre du poisson, je vous le lis, Jonas 2, verset 8. Écoutez bien. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, c'est bizarre tout d'un coup, je me suis souvenu de l'Éternel. Tiens, c'est bizarre. Je me suis souvenu de l'Éternel. Bon, c'était tard, mais fais bon. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Béni soit Dieu que dans nos moments difficiles, il écoute nos prières. Qu'il a pitié de la prière du misérable. C'est écrit ça, que Dieu a pitié de la prière du misérable? Oui, c'est écrit. Il n'écoute pas les hypocrites. La Bible dit que si quelqu'un n'écoute pas, sa prière est une abomination, mais quand on est vraiment misérable, il écoute. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Il ajoute, Jonas 2, verset 9 à 10, « Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, j'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. » Tout d'un coup, il se remet à se reconsacrer au Seigneur. C'est bizarre, non? Comment vous le trouvez ça? Tout d'un coup, pourquoi il se reconsacre à Dieu? Parce qu'après tout, est-ce que c'est parce que tout d'un coup, il a de la compassion pour les Ninivites, il se met à avoir du fardeau pour les âmes perdues? Non, vous avez vu comment il a réagi quand ils se sont convertis? Comment il a réagi? Il s'irrite. Et je te l'avais dit, il est en colère contre Dieu et contre la ville. 120 000 personnes viennent de se convertir, ça l'a mis en colère. À Jonas, c'était un pasteur particulier, Jonas. Mais quand même, bon, Dieu est souverain. Mais en fait, il se reconsacre à Dieu. Pourquoi il se reconsacre à Dieu? Eh bien, parce qu'il est conscient d'une chose dont nous devrions tous être contents, c'est que Dieu est Dieu et qu'il est le souverain Seigneur, et que ça devrait suffire à nous ramener à l'obéissance. Rien que le fait que Dieu soit Dieu devrait nous ramener à lui, même si encore il y a des réglages à faire, parce que dans la vie de Jonas, il y avait vraiment des problèmes qu'il n'avait pas réglés. Mais il décida d'obéir. Pourquoi? Eh bien parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Mais est-ce que ce n'est pas une bénédiction quand on se dit, mais tiens, après tout, mais je ne peux pas faire autrement que d'obéir à Dieu? Est-ce que ce n'est pas une grâce? Quelqu'un qui dit, mais c'est vrai qu'on nous, on est libre. On est libre d'obéir, de ne pas obéir. Démas, le compagnon d'œuvre de Paul, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'était un pasteur adjoint à Paul. Il a marché pendant des années avec Paul, et puis à un moment donné, et Paul le félicite, à un moment donné, il dit, Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Dieu nous laisse libres. Ne vous inquiétez pas, on est toujours libre. Mais quelle grâce quand on arrive à ce stade de non-retour où on dit, mais le fait que Dieu soit Dieu me donne qu'une solution, le servir de tout mon cœur. C'est une grâce. Dieu est vraiment le Seigneur. Est-ce que nous voulons, est-ce que ça ne devrait pas suffire à nous faire obéir joyeusement? Est-ce que franchement, le fait que Dieu soit Dieu ne devrait pas nous suffire? Est-ce que tous les chrétiens ne devraient pas dire, après tout, Dieu est Dieu? Je ne vois pas qu'est-ce que je perds en lui obéissant. Quand on obéit à Dieu, mes frères et sœurs, mais il n'y a pas de plus grande bénédiction. Pas d'aller à l'église pour aller à l'église, parce qu'il y a des gens qui vont à l'église qui sont des sources de malheur. Mais d'aller dans une église et d'être une source de bénédiction. Bien sûr que nous, on est perturbés, on se dit, oui, ça c'est injuste. Nous, on est tout le temps en train de réfléchir, comme je le disais tout à l'heure, ça nous embourbe dans l'éloignement avec Dieu. Mais bien sûr qu'il y a des choses injustes. Bien sûr qu'il y a plein de choses injustes. Vous ne croyez pas que c'était injuste quand un jeune homme de 17 ans s'est fait taper par ses frères et s'est fait vendre dans un pays étranger? Vous ne croyez pas que c'était injuste? Il y a plein de choses injustes. Et nous, on est là et on s'entête. Oui, si Dieu, ceci, et si l'Église, cela, ça se passerait. Mais qui on est pour parler comme ça? Toute grâce vient de Dieu. Toute bénédiction vient de Dieu. Si Dieu veut vous bénir, croyez-moi que si vous obéissez, il vous bénira. Et s'il ne vous bénit pas, ça serait peut-être le moment de vous mettre à genoux et plutôt que de dire oui, c'est la faute à l'un, c'est la faute à l'autre. Écoutez-moi, Dieu peut utiliser n'importe qui pour vous bénir. Et si nous sommes dans l'adversité, eh bien, mettons-nous à genoux. Acceptons que Dieu nous mette à genoux, même nous humilie devant les autres. Après tout, si Dieu le permet, vous savez, Dieu sait ce qu'il fait. Nous, on est trop en train de réfléchir, d'analyser, de comparer, etc. Le résultat, c'est que nous nous endurcissons et nous perdons de notre sensibilité. Il faut que nous soyons honnêtes. Dieu sait ce qu'il veut faire avec toi. Acceptez-le, mes frères et sœurs. Tout ce que vous pouvez traverser. Dieu est peut-être en train d'attirer l'attention sur quelque chose. Est-ce que si, la prochaine fois que j'aurai de l'adversité, il faudra que je me pose la question, mais tiens, est-ce qu'il n'y a pas un péché sur lequel Dieu veut m'attirer? Peut-être quelque chose que je ne réalise pas. L'autre fois, nous avons partagé ce verset que personne ne souffre de s'ingérer dans les affaires d'autrui. Il y a des chrétiens, ils sont tout le temps en train de se mêler des affaires des autres. Ils souffrent. Mais peut-être que c'est ce que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de me montrer que je me mêle des affaires des autres. Ça ne me regarde pas. C'est un péché. Peut-être qu'il faut que je me détache des choses de la terre. Il y a des chrétiens, ils aiment le monde. Ils aiment Dieu, c'est certes, c'est certain. Mais ils aiment le monde, ils aiment plus le monde. Et Dieu le sait. Et il sait très bien que si j'aime le monde, ça va m'empêcher d'être à mon potentiel le plus haut pour le servir. Donc il va permettre une épreuve pour que je me détache du monde. Peut-être que je suis à deux doigts de faire une bêtise. Est-ce que Dieu sait si on est à deux doigts de faire une bêtise? Est-ce que Dieu le sait, ça, au fait? Parce que nous, on n'y pense pas. Oui, on ne pense pas à tout, parce que nous, on est dans le présent, et surtout dans le passé. Mais Dieu, il sait ce qu'il a prévu pour vous. Peut-être, je disais tout à l'heure, mais peut-être que si Dieu veut que tu sois pasteur, ne t'inquiétez pas, que le Seigneur, il va peut-être cadrer les choses. Et vous allez accepter cela comme un barrage. Dieu me barre le chemin. Non, il ne vous barre pas le chemin. Il vous empêche de faire une bêtise. Mes frères et sœurs, il est tout puissant. Il ne se trompe jamais. C'est pour cela que nous devrions dire, mais Seigneur, peut-être que tu es en train de me montrer que oui, je suis en train de faire une bêtise. Ou tout simplement, peut-être que tu permets cette épreuve parce que tu voudrais que j'ai une plus grande communion avec toi. Est-ce que quand même tous nous ne sommes pas concernés par ce sujet? Est-ce que vous pensez que Dieu voudrait avoir davantage de communion avec nous? Est-ce que vous le pensez? Mais, oh Seigneur, tu permets ça, je suis en train de traverser un moment difficile. Mais Seigneur, je veux retrouver cette paix. Seigneur, redonne-moi la paix pour que je comprenne ce que tu veux faire dans ma vie. Mes frères et sœurs, quelles que soient les circonstances, soyez sûrs d'une chose, que tout ce que Dieu fait a un but particulier. Tout. Ne vous contrariez pas de telle ou telle situation. Acceptez-le joyeusement. Bénissez Dieu. Merci Seigneur. Merci. Pourquoi il est dit tout le temps, rendez grâce en toutes choses. Rendez continuellement grâce. Toutes les épîtres demandent de rendre grâce. Paul, il rendait toujours grâce. Quand il est en prison, lisez ses épîtres, il est tout le temps en train de dire aux gens, mais rendez grâce, remerciez Dieu, rendez continuellement grâce. Il est en prison. Pourquoi? Parce que c'est un état d'esprit qui vous maintient dans la communion avec Dieu. Dès que vous vous plaignez, dès que vous râlez, vous vous éloignez de Dieu et nous perdons notre sensibilité spirituelle. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont dans la malédiction. Il faut dire les choses comme elles sont. Paul parle des enfants de malédiction. Ils sont tout le temps dans le mal. Moi, je crois que Dieu est un Dieu qui a des projets de paix et d'espérance. Vous le croyez? Dieu a préparé des œuvres à l'avance. Vous dites, oui, mais moi, qu'est-ce que je suis, moi? Mais monsieur Gau, vous parlez de Saul de Tarse qui est devenu l'apôtre Paul. Vous avez parlé de Joseph qui est devenu premier ministre en Égypte. Vous parlez de Jonas qui était un homme de Dieu. Mais vous croyez que si le salut d'une, deux, trois personnes dépend de vous, vous ne croyez pas que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu? Même si c'est que d'une personne. Si l'éternité d'une âme dépend de votre piété, vous ne croyez pas que ça vaut la peine de... Sincèrement, la peine d'avoir un bon témoignage. Seigneur, oui, attire-moi où tu voudras, Seigneur. Attire-moi dans les verts pâturages. Attire-moi près des eaux paisibles. Attire-moi dans le désert, pas trop longtemps. Mais Seigneur, attire-moi où tu veux. S'agit que tu puisses parler à mon cœur. Croyez-moi, si nous sommes sensibles, si nous étions sensibles, si nous disions, Seigneur, moi, il y a des choses que je n'ai pas encore compris, mais moi le premier. Mais moi le premier, vous croyez que j'ai compris tout ce que Dieu attend de moi? J'ai des idées, j'ai compris certaines choses. Au bout de 35 ans de pastorat, je commence à comprendre certaines choses. Mes frères et sœurs, est-ce que heureusement que Dieu est patient? Et puis Dieu peut vouloir quelque chose jusqu'à aujourd'hui, et dans 6 mois il peut vouloir autre chose. Les plans de Dieu sont variés. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de dire, Seigneur, arrête-moi où tu veux. Que ce soit seul dans ma chambre ou que ce soit devant les collègues, ça m'est égal. Que tu m'humilies devant les gens. Moi, ça m'est arrivé en pastoral d'être humilié devant tout le monde. Franchement, vous savez ce que j'ai dit? Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dieu peut tout, mes frères et sœurs. Mais je crois qu'on devrait avoir cette intelligence de lui faire confiance. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui dit, Seigneur, moi je veux te faire confiance. Tes projets, ils sont bons. Non, après. Tes projets, ils sont bons. Alléluia. Tes projets, ils sont pleins d'espérance. Est-ce que vraiment quelqu'un le croit, ça? Que les projets de l'Éternel demeurent de génération en génération. Alors est-ce qu'on pourrait lui dire, Seigneur, aide-nous, aide-moi. Seigneur, tu as un projet pour moi. Alléluia. Mais commençons à accepter toutes ces choses. On va prier le Seigneur simplement. Vraiment, on a souvent prié parce qu'il fallait prier. On a souvent prié par habitude parce qu'il fallait terminer une réunion, c'est évident. Mais est-ce qu'on pourrait vraiment prier et dire, mais Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi cette sensibilité parce que tu connais mon avenir. Oui, Dieu savait l'avenir de Saul de Tarse. Ça valait la peine qu'il l'humilie devant tous les copains? Moi, je crois que oui. Notre Père, notre Dieu, le peu que nous comprenons de ta parole nous montre que tu ne te trompes jamais. Tu sais comment parler à quelqu'un. Aide-nous, Seigneur, aide-nous à écouter ta parole simplement. Que nous n'ayons pas besoin de coups de bâton, Seigneur. Que nous n'ayons pas besoin d'épreuves inutiles. Mais que là, dans les pâturages où tu nous as placés ici, nous écoutions ta voix. Comme ces brebis dont tu dis que mes brebis, elles connaissent ma voix et elles m'écoutent. Fais de nous, Seigneur, ces brebis attentives et dociles qui écouteront afin de ne pas perdre du temps. De toute façon, Seigneur, nous te remercions pour ta patience infinie. Nous te remercions pour ta tendresse. Nous te remercions pour ta sévérité. Nous te remercions pour tes exigences et ce que tu veux faire avec nous. Puisses-tu le faire, Seigneur, le temps qu'il nous reste à passer ici-bas. Puisses-tu accomplir tes plans. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.